Good Morning Weekend. La double page info du week-end, Fabrice Lundy sur BFM Business.
Good morning week-end, voilà, très heureux de vous retrouver donc pendant une heure, hein, l'actualité politique, l'actualité économique, l'actualité sociale avec tous nos amis, ceux que vous adorez chaque samedi, chaque dimanche, de 8h à 10h. François Langlais est avec nous, bien entendu, comme tous les week-ends. Bonjour François.
Bonjour Fabrice, bonjour à tous.
Je précise, pour François Langlais, écoutez bien, c'est une grande nouvelle pour BFM Business et pour vous qui nous écoutez. François Langlais va prendre les rênes de notre radio-télévision, directeur de la rédaction de BFM Business. Il devient en quelque sorte mon patron. Soyez
bonjour,
bienvenue,
patron.
Cher patron.
Écoutez, c'est un plaisir que de travailler avec vous, Fabrice.
C'est vrai, ça fait combien d'années, François?
Et ça doit faire 7 ou 8 ans
ouais,
qu'on
c'est
est
ça,
qu'on
à peu près,
compère
ouais,
et complice ouais, du week-end comme
bon,
ça.
Bon, j'adore, voilà. Bon, enfin, nos relations personnelles resteront, j'espère, en l'état, c'est-à-dire bonnes, sympathiques, chaleureuses, nécessairement. Marc de Citivaux, bonjour mon cher Marc.
Bonjour tout le monde. Je tiens à dire que François me disait juste avant la réunion que sa première mission sera de couper tous les salaires.
Et de lourder Fabrice lundi, voilà.
Voilà. Fabrice, vous avez tort de vous réjouir.
Bon, alors Marc de Citivaux, on le rappelle pour les rares qui ne le connaissent pas, hein, il est fondateur donc des Cahiers Verts de l'économie, économiste. François-Mickey Marty, bonjour.
Bonjour Fabrice, bonjour à tous.
Comment ça va François?
Très bien.
On s'est pas revu depuis
bien.
Les vacances, hein, président fondateur de l'Institut de sondage et d'opinion Via Voice. Alors, les grands moyens, hein, des mots forts hein, pour dépeindre, pour résumer l'actualité de la semaine. Alors Barack Obama qui parle de choc électrique à l'économie américaine en présentant son plan jeudi soir de presque 450 milliards de dollars. Un plan, est-ce qu'il verra le jour? On y reviendra dans un instant. Il y a Jean-Claude Trichet aussi, pessimiste, hein, qui insiste sur le degré élevé d'incertitude. Jean-Pierre Jouyet, président de l'AMF, qui n'excluait pas que la Grèce soit mise sous tutelle. Et puis des grands moyens, alors pas sur enfants, je ne sais pas, sur fond de menaces, de chantage, de marchandage, notamment entre majorité et gouvernement, sur le plan de rigueur discuté au Parlement. Inconnu par ailleurs, hein, sur l'arrivée de la fameuse règle d'or en France. On va revenir sur tous ces points. En tout cas, une semaine passionnante. Hein. On se régale. Alors, on va pas dire qu'on se réjouit du malheur des autres. Mais enfin,
encore que.
Alors, dites-moi, François
Finalement,
Langlais.
Écoutez, moi, ce que je vois aussi dans l'actualité de cette semaine, c'est que petit à petit, le déni de la réalité perd du terrain.
C'est-à-dire qu'on
entend M. Trichet qui nous dit qu'il y a des incertitudes considérables sur l'économie mondiale.
C'était fort jeudi soir,
jeudi
après-midi. Ouais.
Il y a quelques semaines, il augmentait les taux, exactement comme il l'a fait en 2008, à la veille de la plus grande catastrophe économique après-guerre. Donc, bon, c'est bien la preuve que la réalité se fait jour. On entend M. Jouyet. Sur notre antenne d'ailleurs, hein, qui dit.
Avec Edwige Chevrillon,
avec Edwige qui dit.
On le rentrera tout à l'heure.
On mettra, on mettra la Grèce sous tutelle. On a entendu également le Premier ministre néerlandais qui a dit il va falloir fiche dehors la Grèce de la zone euro. C'est-à-dire qu'en clair, on se rend bien compte que ce système n'est plus possible et que l'empilement des plans de sauvetage ne fait jamais que remplir un tonneau des Danaïdes. Ça, c'est plutôt une bonne nouvelle.
Voilà. Alors, on va y revenir sur tous ces points. Marc, je vais vous donner la parole dans un instant. Alors, Barack Obama, extrêmement attendu dans la nuit de jeudi à vendredi. Hein. Alors, on attendait 300 milliards de dollars. Ce serait 450 milliards de dollars. On verra si le plan ira jusqu'au bout, parce qu'il y a quand même des républicains qui sont au pouvoir, en tout cas à la Chambre des représentants. Un plan emploi donc destiné à donner un choc électrique à l'économie américaine, le président américain.
Ce plan va créer de nouveaux emplois pour les ouvriers du bâtiment, pour les enseignants, les vétérans et pour les chômeurs de longue durée. Peu importe les disputes que nous avons eues dans le passé, peu importe les disputes que nous aurons dans le futur, ce plan est la bonne chose à faire. Vous devez l'adopter immédiatement et j'ai l'intention de faire passer ce message dans tout le pays.
Voilà, vous devez l'adopter immédiatement, donc adresse aux parlementaires, notamment les républicains. Alors bon, on aura le détail dans quelques semaines, hein, sur les allègements d'impôts, sur les allègements de charges sociales pour les PME, etc. etc. Marc de Citivaux, est-ce que ce plan va voir le jour? Beaucoup en doute, hein.
Oui, alors même en dehors de cela, je voudrais quand même attirer l'attention sur un fait qui est quand même intéressant. Monsieur Barack Obama est démocrate.
Oui.
Or, il présente un plan de relance qui est la baisse des impôts et la baisse des charges sociales. C'est l'inverse du plan Fillon, fait par un gouvernement de droite, dont pour l'instant je n'ai entendu que des augmentations d'impôts. Ce qu'on appelle le rabotage, on l'a déjà dit, le rabotage des niches fiscales sur augmentation d'impôts. Nous avons dans le plus grand secret augmenté la CSG, qui est un poids énorme fait sur le revenu disponible des ménages, et je n'ai pas vu beaucoup des diminutions de dépenses. Donc déjà, c'est un point qui est intéressant à souligner, que même quand c'est un démocrate, tout le monde comprend bien que quand il faut relancer l'économie, il vaut mieux plutôt diminuer les charges sur les entreprises et sur les ménages plutôt que les augmenter. Est-ce que ce plan va marcher ou non ? Franchement, je n'en sais rien. Était-il utile ? C'est plus discutable. Le problème, si vous voulez, c'est que malheureusement, et les États-Unis ne font pas exception à la règle, qui est qu'un président de la République est terrifié à l'idée de se présenter là, au milieu d'une récession. Ça avait coûté à Bush père son siège. Clinton avait été élu à cause de ça, alors que l'économie allait repartir quelques mois après. Je ne suis pas personnellement convaincu de ça, parce que je ne suis pas personnellement convaincu de la mauvaise situation de l'économie américaine. Ce que je note néanmoins, c'est que l'action psychologique est importante. Pourquoi ? Parce que il se fait, et c'est bien malheureux, mais c'est un fait, que depuis une dizaine d'années, contrairement au passé, les évolutions des marchés boursiers ont un véritable impact sur le comportement des chefs d'entreprise, dans leur décision entre autres d'investir. Et c'est vrai que le fait que les bourses aient pas mal baissé, moins aux États-Unis qu'en Europe, mais aient pas mal baissé, et peut-être une des explications du ralentissement de l'investissement des chefs d'entreprise américains, alors que l'investissement se tenait très bien depuis un an, et seul l'investissement permet l'embauche. Donc on peut imaginer que même si ça a qu'un impact psychologique, ça peut être important. Néanmoins, il faut être sûr que l'impact psychologique va fonctionner.
Oui, alors justement, utilité ou pas de ce plan, François Langlais, le précédent, on le rappelle, 780 milliards d'euros. Qu'en reste-t-il quand on voit, par exemple, eh bien, encore une fois, la semaine dernière, les chiffres de l'emploi extrêmement mauvais, les destructions d'emplois ?
Oui, si vous voulez, ce qui se passe aux États-Unis, c'est ce qu'on appelle le deleveraging, c'est-à-dire que les agences, les consommateurs principalement, se désendettent. Il faut rappeler une chose, c'est vraiment un chiffre très simple, mais qui donne quand même la mesure de l'effort qu'est en train de faire l'Amérique. Avant la crise, la consommation des ménages représentait entre 72 et 73% du PIB, alors que la moyenne des pays développés, c'est plutôt aux alentours de 67-68. Cet écart de 5 points de PIB, il était fait en grande partie grâce à l'endettement financé par la croissance de la valeur des maisons. Tout ça a disparu quasiment d'un jour à l'autre. Donc petit à petit, les agents économiques américains s'adaptent à cette nouvelle donne et il faut évidemment soutenir la croissance pendant ce temps-là. Le plan que vous évoquez de 780 ou de 730 milliards, il avait été décidé par l'administration d'avant, d'ailleurs. Il a quand même permis de tenir le bazar pendant 2 ans. C'est vrai qu'aujourd'hui, ses effets se fatiguent. Celui-ci, je pense qu'il est essentiellement politique. J'imagine mal le Congrès le voter avec une majorité républicaine. Et je crains bien que ça ne soit qu'une opération de communication politique déclenchée par un président qui a déçu sur à peu près tous les sujets. Obama, qui est une espèce de Carter moderne et qui est à la veille, justement, de se voir probablement battu par l'opposition. C'est vrai que dans les sondages, il est vraiment en mauvaise posture.
Et dans 14 mois, il y a le scrutin présidentiel aux États-Unis. François Mickey Marty.
Oui, je crois que c'est un plan à plusieurs clés de lecture, au fond. Il y a les dimensions économiques dont on parle, avec les baisses de charges. D'ailleurs, c'est intéressant parce qu'Obama fait des références à Roosevelt, alors que ce plan-là n'a rien à voir avec le plan qui avait été adopté par Roosevelt dans les années 30. Il y a une dimension psychologique qu'Obama a lui-même mise en avant, et puis il y a une dimension politique qui me paraît intéressante, c'est-à-dire que dans son discours au Congrès, Obama a mis en avant la nécessité de réhabiliter le volontarisme américain comme étant un élément de l'identité américaine. Et je crois qu'on est dans une période où l'identité américaine est particulièrement mise en cause. Et il peut, c'est d'une certaine manière, c'est sa marque de fabrique, il a fait sa campagne là-dessus, sur cette nécessité de faire aboutir l'identité américaine. Et je crois que c'est quelque chose qui peut réhabiliter. Son image n'est pas si écornée que cela. On est loin, pour donner un élément de comparaison, du discrédit dont souffre Nicolas Sarkozy aujourd'hui en France. On a 45% des Américains qui ont une bonne image d'Obama. Alors certes, c'est minoritaire, mais depuis le début de l'année 2010, il tourne autour de 45-50% de popularité. Donc il a encore des moyens pour rebondir. Et donc je crois précisément que sur ce plan-là, l'économique et le politique se rejoignent véritablement.
François, et après Marc.
Juste un mot sur Roosevelt, parce que justement, en relisant là, un livre sur la prise de fonction de Roosevelt, j'étais vraiment très étonné par les conditions dans lesquelles ça s'est fait. Il faut savoir que Roosevelt, donc il était en novembre 32, au plus profond de la crise, les banques font faillite, les gens n'osent plus sortir dans les rues. Ils ont peur d'être attaqués parce que tout le pays entier est plongé dans une espèce de nuit psychologique. Et Roosevelt est élu en novembre, il prend ses fonctions donc en janvier 33. C'est le premier président à utiliser la radio pour parler à ses concitoyens. Parce qu'il se dit, il y a là un média moderne qui va me permettre de les toucher. Et il leur parle et il leur dit, il leur présente sa stratégie économique, et il leur dit, venez rapporter votre argent, vous avez retiré votre argent des banques par crainte de la faillite, ramenez-le, rapportez-le, de façon à rétablir la solidité du système bancaire. La semaine d'après, il y a des milliers de gens qui viennent précisément remettre leur argent dans les coffres des banques de façon à rétablir la liquidité. Et bon, alors évidemment, après, il y a le New Deal, il y a toutes les opérations dont parlait François à l'instant. Mais c'est vrai qu'on est dans un contexte. D'abord, la dimension de leadership est évidemment très différente entre Obama et Roosevelt. Et un contexte idéologique qui est aussi complètement différent. C'est-à-dire que contrairement à ce que pensait Obama en 2008, l'État n'a pas retrouvé, loin s'en faut, le courant ascensionnel au plan idéologique qui était celui qu'il a retrouvé quand Roosevelt a pris ses fonctions en 1933.
Voilà, récit signé François Langlais, Marc de Citiveau.
Oui, je voudrais, tout à l'heure François a comparé Obama à Carter. En fait, à mon avis, la comparaison n'est pas bonne. Il se fait qu'il y a eu une erreur générale sur Obama faite au moment où il s'est présenté. J'allais dire que le fait qu'il était noir a été considéré comme un élément fondamental, alors qu'en fait, l'élément fondamental chez Obama n'est pas ça. C'est un avocat de la côte Est. On connaît ce modèle. D'ailleurs, il ressemble plus à Kerry, dirais-je, qu'à Carter. On sait ce que c'est. C'est ce que les Américains appellent des têtes d'œufs. Et en fin de compte, c'est le bon vieil avocat de Harvard, de la côte Est, qui essaye d'appliquer aux États-Unis un modèle qui est plus européen qu'américain et qui, en général, se plante très vite avec un rejet de l'opinion américaine qui, elle, n'accepte absolument pas ce type de modèle. C'est pas du tout, il n'a pas fait, à mon avis, je ne suis pas très sévère sur ce qu'il a fait, il a suivi les règles habituelles des avocats de la côte Est et ces règles, en général, ne fonctionnent pas, point barre. Nos amis de Tea Party sont dirigés par des gens qui apparaissent comme des fous furieux, mais qui ont un énorme avantage pour eux, c'est que eux, leur discours correspond bien au fond des États-Unis. Et c'est ça qui leur donne un avantage. Donc à partir du moment où ils peuvent être représentés, non pas par une excité ou un excité, mais par quelqu'un qui paraît plus sérieux, ça leur donne une sacrée chance. Hein.
François-Mickey Marty.
Oui, ce qu'on trouve intéressant dans le discours d'Obama, c'est l'idée selon laquelle le propre des États-Unis, quand on est au fond du trou, c'est de pouvoir rebondir. C'est ça, être américain, c'est ça, dit-il. Et il prononce ce discours-là à la veille de l'anniversaire des 10 ans du 11 septembre. Il y a pas mal d'études de perception du 11 septembre qui avaient été faites à l'époque. Le 11 septembre véhiculait l'image d'un monde en ruine. Aux États-Unis, en Europe aussi. Cet effondrement des Twin Towers, c'est le monde qui s'écroule. Aujourd'hui, on n'est pas loin de cette imagerie-là, sur le plan économique et financier. On est dans un monde qui s'écroule. Et ce que raconte Obama dans son discours, c'est être américain, c'est précisément lorsque le monde s'effondre, être capable de le reconstruire. Je ne sais pas si c'est l'amorce d'un discours présidentiel, mais il a une légitimité là-dessus, il a une crédibilité.
Bon, ça démarre très très fort cette heure avec François-Mickey Marty, François Langlais, Marc de Citiveau. On continue, vous restez avec nous sur BFM Business. Très bonne matinée.
BFM Business, Good Morning Weekend, Fabrice Lundy.
Good Morning Weekend, on va s'intéresser évidemment dans un instant aux propos de Jean-Claude Trichet, de Jean-Pierre Jouyet, propos assez sévères, assez pessimistes. Hein. On est avec François-Mickey Marty, Marc de Citiveau, François Langlais. Un mot simplement aussi sur le 11 septembre, on va pas y revenir évidemment sur les faits en eux-mêmes, les leçons à en tirer, hein, puisqu'on va encore en parler ce matin, notamment avec Pierre Servant hein, qui nous accompagne dans l'autre heure consacrée à l'actualité internationale. Il y a aussi toujours en ligne hein, l'émission spéciale qu'on avait enregistrée, qu'on avait présentée la semaine dernière et qui est toujours donc en ligne sur le site de BFM Business, avec notamment Louis Caprioli, Eric Laurent, Dominique Simonet. Simplement sur ces 10 ans du 11 septembre, le visage de l'Amérique ou le visage économique aussi, le paysage économique, François Langlais.
Il y a deux commentaires à faire. Le premier, c'est que justement les commentaires à chaud, si je puis dire, de cet événement il y a 10 ans, soulignaient la véracité de la thèse d'Huntington, du choc des civilisations. On se rend compte aujourd'hui que c'était des bêtises absolues. Hein, que évidemment, il y a une bande d'excité dangereux qui s'en est pris à l'Amérique, mais que 10 ans plus tard, on voit des mouvements démocratiques qui, en tout cas, secouent véritablement les pouvoirs dans le monde arabe.
Et sans Al-Qaïda.
Et sans Al-Qaïda.
Bien sûr.
Donc, il faut se méfier, au fond, des thèses aussi radicales que celle-là, parce que l'histoire, dans son développement, qui est souvent pas celui des commentateurs, qui est beaucoup plus lent, comme dit Neil Ferguson, l'histoire ne se déroule pas à la vitesse d'un match de football. J'aime beaucoup ce commentaire, parce que c'est vrai.
Vous n'auriez pas parlé de rugby, hein, Souken. Mais bon.
C'est vrai. Ouais. Et le deuxième, c'est que, évidemment, au plan économique, juste avant le 11 septembre, l'Amérique est un peu au zénith de sa puissance et de son attraction mondiale, parce que c'est justement le plus haut de la bulle Internet, et la bulle Internet, enfin les technologies, pas seulement la bulle, mais les technologies qui sous-jacentes de la bulle, elles sont inventées aux États-Unis. 10 ans plus tard, Je ne crois pas que ça soit durable. Je suis fondamentalement optimiste sur le devenir des États-Unis, mais on voit le pays momentanément entravé par une crise inhabituellement grave. Et c'est vrai que, là encore, souvenons-nous de ce qu'on disait il y a une dizaine d'années, que l'Amérique allait durablement dominer le monde. On voit que le poids relatif des pays émergents est beaucoup plus important aujourd'hui qu'il ne l'était, singulièrement celui de la Chine.
Alors, on revient sur la conjoncture économique. Est-ce qu'on a des soucis à se faire? Parce que c'est vrai, il y a eu des propos assez durs. Hein. Jean-Claude Trichet, qui parlait de degrés élevés d'incertitude, jeudi, à propos des risques qui entourent l'économie mondiale. La croissance de la zone euro qui va continuer à ralentir, toujours selon la BCE. Alors, Jean-Claude Trichet n'a pas parlé de récession, alors que l'OCDE apparemment a franchi le pas. Hein. Une nouvelle récession n'est pas exclue dans certains États. Marc de Citivaux, je vous écoute. Récession
non.
ou pas?
Non, mais d'abord, on se fiche complètement de ce que raconte Jean-Claude Trichet, qui passe son... Non, mais je veux dire, je suis sérieux.
Il va partir, là, dans un mois.
Non, mais je veux dire, il a toujours passé son temps à se planter totalement sur les prévisions économiques. François le rappelait, il a augmenté les taux en 2008. Il nous a annoncé en septembre 2008 qu'il y avait un risque inflationniste juste avant une déflation importante. Il a en effet au début de l'année, enfin c'est un homme qui passe son temps à se tromper, ça fait 25 ans qu'il se trompe, voilà, bien, il s'en ira, tant mieux qu'il prenne une retraite qu'il n'a pas méritée. Voilà, donc on s'en fiche. Non mais l'Europe c'est très très simple, je suis désolé, j'ai l'impression d'être Caton l'Ancien qui de même que pendant 10 ans finissait tous ses discours en disant « Delandaes Carthago, il faut détruire Carthage », j'ai l'impression d'être toujours à dire la même chose. L'Europe va en baver pendant 10 ans pour une bonne et simple raison qu'on lui demande de remettre ses compteurs à zéro, je parle de la zone euro, et que les revenus empruntés à l'extérieur qu'on distribuait aux gens ne seront plus distribués. Il faut donc qu'ils se serrent la ceinture. Il y avait une manière moins douloureuse pour qu'ils se serrent la ceinture, c'est de le faire par des dévaluations. C'était la méthode ancienne. Les gens perdaient du pouvoir d'achat international, ils ne s'en rendaient pas compte. Ils trouvaient que c'était fabuleux que le chocolat suisse pouvait monter les prix. Ils ne se rendaient pas compte que c'était la valeur de leur monnaie qui baissait. Et donc leur niveau de vie baissait sans qu'ils s'en rendent compte. Ça avait un certain avantage. D'autre part, ils récupéraient de la compétitivité. Cette arme, on s'est interdit de l'utiliser par la défense absurde d'une mécanique qui aurait pu marcher, qui s'appelle l'euro, mais qui ne pouvait plus marcher à partir du moment où les règles du jeu n'ont pas été mises en œuvre, c'est-à-dire qu'on a laissé les pays augmenter leur déficit alors qu'il était prévu qu'ils n'en auraient plus du tout. Bien. Qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer que la consommation à l'intérieur de la zone euro va être épouvantable pendant 10 ans. Savoir si c'est le mois prochain, dans 3 mois, dans 6 mois... Je comprends que les marchés financiers, que les commentateurs, ça les intéresse de savoir ce 3 mois. La réalité, elle est là. Nous allons en baver pendant des années. Voilà.
Et le moral est au plus bas, François-Mika Marti.
Des acteurs économiques, notamment des cadres, est très très faible. On a aujourd'hui un record historique. Hein. On a 70% des cadres en France qui estiment que la France va entrer en récession au cours des mois qui viennent, 78% qui pensent que le chômage va augmenter. Et ce qui est très frappant, c'est que les résultats que l'on enregistre aujourd'hui, donc auprès des cadres en France, sont plus mauvais que ceux que l'on enregistrait dans le contexte de la crise de 2008-2009, après la faillite de Lehman Brothers. Parce qu'il y a un sentiment d'impasse, ou l'idée selon laquelle on ne voit pas d'issue immédiate de court terme. Donc on est dans un contexte où les mauvaises nouvelles génèrent un climat économique, une psychologie économique qui ne pousse pas véritablement ni à l'optimisme ni à l'investissement.
Voilà les études donc de Via Voice dirigées par François-Mika Marti. François Langlais avec nous également
donc,
ce matin.
Juste un mot pour dire que je suis en accord parfait avec le diagnostic fait par Marc et François, mais pas forcément sur les conséquences. C'est-à-dire que je suis plus optimiste que sur le moyen terme, je pense que tout ça ne tiendra pas. C'est-à-dire qu'il est... Regardez évidemment la situation, ce qui nous est promis, c'est une longue série d'années de purge, mais heureusement, quand les politiques ne considèrent pas la réalité, il y a des facteurs qui ramènent de la réalité dans le système. Le premier, c'est les marchés financiers, qui disent la vérité. Et ils disent notamment, avec vigueur, depuis 18 mois, un euro grec n'égale pas un euro allemand. Et la meilleure preuve, c'est que les taux d'intérêt sont différents. On ignore les marchés financiers, on essaie de les museler, les brider, on interdit les ventes à découvert, etc. Ils se manifestent bruyamment.
Lundi noir, on est passé sous les 3000 pour le CAC 40.
Et c'est pas fini, on va être dans l'automne avec ça, et d'un certain côté, heureusement, puisque c'est la vérité qu'on nous dit ainsi. Le deuxième régulateur qui est juste derrière, si celui-là ne fait pas effet, ce sont les peuples. C'est-à-dire, c'est ce qui s'est passé à Londres, alors s'ils ne sont pas dans l'euro, mais ils sont dans des problèmes de déflation. C'est-à-dire, c'est le pillage, c'est évidemment, sous la forme la plus pacifique, des votes qui vont sanctionner les gouvernements.
Manifestations en Espagne, manifestations en Italie encore, c'était mardi.
Et je pense, j'espère, que si le scénario décrit tout à l'heure par Marc et François se manifeste, et nul doute que quand on raisonne avec le bon sens, c'est ça qu'on voit, j'espère que pour le coup, l'un de ces deux régulateurs aura suffisamment de poids pour remettre de la réalité dans le système et contraindre justement les élites politiques à prendre des décisions différentes.
Marc de Citivo, fondateur des Cahiers Verts de l'économie.
Oui, en fait, je suis d'accord avec François. Ce qui est clair au jour d'aujourd'hui, c'est exactement c'est la situation du dentiste. Il faut que vous fassiez arracher une dent pourrie et vous êtes terrifié avant que ça va vous faire mal, vous êtes terrifié en y rentrant. Quand il vous l'enlève, vous apercevez que c'est moins douloureux qu'on ne le croit et quand vous sortez, vous êtes c'est en pleine forme. Je prétends que si demain matin, ce qui n'arrivera pas, nous avions une réunion de M. Van Rompuy, M. Sarkozy, Mme Merkel, M. Berlusconi, M. Zapatero, qui annonçaient tous ensemble qu'ils allaient démonter la mécanique euro parce qu'elle n'est pas tenable pour l'instant, les marchés financiers booment pendant des mois. Ce qui prouve que c'est la peur de l'événement, et non pas l'événement lui-même qui est inquiétant. Alors, François est optimiste, car il pense que sous la pression des peuples, sous la sagesse de je ne sais quoi, sous le coup de pied au cul des marchés, on va bien obligé d'y aller. Moi, j'ai peur que l'on utilise les moyens les plus absurdes, comme depuis 2 ans, pour faire continuer la douleur. Je dénonce aujourd'hui, et je ne suis pas M. Mélenchon, l'extraordinaire lobbyisme fait par les banques, compagnies d'assurance et autres pour convaincre, grâce à des petits messagers grassement payés qui viennent voir les présidents de la République, je ne donnerai pas de nom, bien que quand on a parlé d'un petit conseiller grassement payé, tout le monde devrait comprendre de qui je parle, mais je n'ai pas cité son nom. Je dénonce la procédure qui consiste à faire croire à nos dirigeants que ça serait un désastre, uniquement pour permettre aux banques, caisses de retraite, compagnies d'assurance et autres de ne pas avoir à provisionner des sommes trop élevées qui atteindraient les bonus et les stock options. Et je n'ai cité aucun nom.
Non.
Chacun pourra mettre les noms qu'il veut,
n'est-ce pas,
sur le portrait que je fais. Pour une fois, les gauchistes ont raison. Vous avez un complot de la finance contre l'intérêt des peuples.
Eh ben dis donc, j'ai l'impression qu'il est en forme, Marc de Citivo. Je le retrouve bien. Il était là avec nous la semaine dernière, mais il se chauffait la semaine dernière.
Là, il revient à fond.
Là, il est brillant. J'adore. Bon, allez, François-Mickey Martin, l'Institut Via Voice. Rendez-vous juste après les infos de David Dauba. Marc de Citivo, bien entendu, il va pas s'arrêter. Là, on est encore pendant une demi-heure ensemble. Et François Langlais, nouveau directeur de la rédaction de BFM Business. Merci, restez avec nous. Rendez-vous dans 5 minutes. À tout de suite.
Good Morning Weekend. La double page info du week-end, Fabrice Lundy sur BFM Business.
Voilà donc David Dauba, l'homme des infos, toutes les demi-heures sur BFM Business. J'espère que tout le monde va bien, que vous passez un bon week-end. Hein. On est avec François Langlais, directeur de la rédaction de BFM Business. Oui, c'est son nouveau job depuis donc jeudi. Merci mon cher François, continuez à nous accompagner tous les week-ends.
Le plaisir est intense.
Marc de Citivo, chaud comme la braise ce matin, magnifique. Hein. Et puis François-Mickey Barty qui dirige l'Institut de sondage et d'opinion Via Vox. On est toujours sur les affres de la zone européenne, de la zone euro. Voilà, faut que ça craque. Hein, ce que nous disait tout à l'heure Marc de Citivo. Voilà, c'est comme chez le dentiste. Hein, on a peur d'aller se faire arracher une dent, mais quand on se fait arracher une dent, qu'est-ce qu'on est bien. Tiens, je crois que mon dentiste, il m'écoute justement le week-end. Je le salue. Tiens, justement, il m'accueillera bien la prochaine fois, comme il le fait à chaque fois d'ailleurs. Alors,
par sa pince.
La Cour constitutionnelle allemande donc a autorisé Berlin à sauver l'euro sous condition, hein, le gouvernement allemand devant davantage impliquer le Parlement. C'était l'un des événements, l'un des faits majeurs de l'actualité de la semaine qu'on revoit ce matin sur BFM Business. Et puis alors donc la situation grecque. Hein, alors justement, combien de temps va-t-on encore attendre, hein, même si la Grèce montre certains gestes. Alors elle accélère son programme de privatisation. Est-ce que c'est suffisant? Je ne sais pas. Beaucoup disent que non. Jean-Pierre Jouyet, alors c'est le président de l'autorité des marchés financiers. Hein, gendarme de la bourse française, il était jeudi midi, chez Edwige Chevrillon sur BFM Business, il juge envisageable une mise sous tutelle de la Grèce en cas de non-respect de ses engagements. On l'écoute.
Les Grecs doivent faire ce qu'ils ont promis de faire. S'ils ne le font pas, vous avez deux organismes qui doivent intervenir et dire ce qui doit être fait. Là aussi, il y a eu quelques silences assourdissants. Il ne suffit pas de claquer la porte non plus. C'est la Commission européenne et le Fonds monétaire international, là, plus que sur la capitalisation des banques, qui doivent dire exactement ce qui doit être fait et qui doivent donner la marche à suivre.
Et si ce n'est pas fait, à part ça qui
l'apporte ? Si ce n'est pas fait, il y aura un problème de restructuration qui se posera. Ouais. Mais moi, ce que je dis, il faut aller au bout du plan du 21 juillet.
Voilà, Jean-Pierre Jouyet. Question technique quand même, François Langlais. C'est possible de mettre comme ça un pays sous tutelle ? Question que je pose à tous les intervenants, j'ai envie d'avoir une réponse.
Bien sûr, oui, le FMI le fait régulièrement. Ouais. Alors, généralement, il le fait plutôt en Afrique ou en Amérique du Sud qu'en Europe. Mais de fait, quand le FMI prend le contrôle d'un pays en contrepartie de l'argent qu'il apporte, ce sont les fonctionnaires du FMI qui signent les chèques. Hein, et le pouvoir régalien n'est plus du tout régalien. Juste un mot sur ce que dit Jouyet. Il y a évidemment dans les problèmes grecs une part qui leur incombe, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas fait le job. La fraude fiscale est un sport national et on voit que depuis que les impôts ont été augmentés, la plupart ne déclarent plus ni leurs revenus ni leurs achats. Au fond, l'économie au noir a dû s'agrandir. D'ailleurs, le signe, c'est que la récession officielle pour le deuxième trimestre est de moins 7,3%, après 5% l'année dernière et 5% l'année d'avant. Donc, si vous voulez, il y a à la fois l'économie qui ralentit et surtout l'économie réelle, disons, en plein soleil, qui diminue au profit de l'économie au noir. Donc là, c'est bien évidemment la responsabilité des Grecs. Mais ils ne sont pas les seuls responsables. Il y a aussi une responsabilité, précisément de la communauté européenne et du FMI, d'avoir boutiqué un plan de sauvetage absurde. Et d'avoir boutiqué un deuxième plan de sauvetage qui est encore plus absurde. C'est comme, si vous voulez, quelqu'un qui parie 1 million d'euros sur le 18, il perd évidemment sa mise et il dit « Bon, c'est pas grave, je vais mettre 2 millions sur le 19 ». Qu'est-ce qui va lui arriver ? La même chose. Donc, on est dans un système de contraintes qui est évidemment beaucoup trop forte, puisque un effort d'austérité, disons, souhaitable à la mesure justement des attentes du plan, ne pourrait être fait que si la croissance revient. Elle ne peut revenir que s'il y a dévaluation par rapport à l'ensemble des autres pays de la zone euro. Autrement dit, que si la Grèce sort de la zone euro. C'est ce qui va arriver. C'est très probablement ce qui va arriver. J'ai noté d'ailleurs que, on en parlait, hein, le Premier ministre néerlandais dit « bon, il faut les fiches dehors ». Je ne suis pas sûr que ça se passe comme ça.
La Commission réagit tout de suite, pas du tout.
Non, mais à mon avis, c'est les Grecs quand même qui vont le demander très rapidement. C'est-à-dire que le gouvernement de Papandréou, qui est comme le hamster dans sa roue, depuis 2 ans, un jour ou l'autre, il va tomber de sa roue. Et il y aura des gens probablement plus raisonnables qui ne seront pas inhibés par les modes de pensée entiers. Souvenons-nous, là, c'est la phrase du moment, hein, mais elle a été citée par Fabius justement à l'université du MEDEF, et je crois qu'il l'attribue à Einstein, on ne peut pas résoudre un problème avec les modes de pensée qui l'ont causé. C'est vrai, c'est vrai. C'est pour ça que ce gouvernement grec n'arrivera pas à ses fins et qu'il sera renversé par un autre qui appréhendra les choses de façon plus pragmatique et probablement plus efficace.
Voilà, retenez ce scénario que vous donne ce matin François Langlais, voilà, d'ici quelques semaines, quelques mois, on verra bien. Marc de Citivo.
Oui, ce qui m'ennuie, si vous voulez, dans ce scénario qui me paraît évident, c'est que si on l'avait fait dès l'origine, ça aurait quand même été nettement plus confortable. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a 2 ans, c'était facile de dire les Grecs ont triché, ils sont vilains, dehors, et à ce moment-là, le feu ne se serait pas propagé. Je rappelle que les pertes qui pouvaient être même reçues par le système bancaire étaient de très loin, en cas où les situations financières des banques et établissements et compagnies d'assurance n'étaient pas suffisantes pour les provisionner, alors qu'ils l'étaient déjà très 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 largement, ces établissements pouvaient être recapitalisés sur fonds européens pour des sommes infiniment moindres que ce qu'on va dépenser pour le sauvetage impossible de la Grèce. Ce qui est ennuyeux, c'est que ne l'ayant pas fait, ça a laissé le temps de jeter une suspicion sur l'ensemble des dettes des pays de la zone euro. Et donc aujourd'hui, nous ne sommes pas du tout sûrs qu'en sortant la Grèce, nous arrêtons l'incendie. Et nous ne savons pas à ce moment-là, alors que c'était facile il y a 2 ans. Les Grecs étaient un cas suffisamment à part pour limiter l'incendie. Donc je suis très inquiet. Je pense que ça sautera et je pense que malheureusement, l'incendie se développera. Et à ce moment-là, honnêtement, et là on rebondit sur l'affaire de Karlsruhe. L'affaire de Karlsruhe, qu'est-ce que c'est ? On dit c'est formidable, le tribunal de Karlsruhe n'a pas condamné. C'est-à-dire qu'il
la Cour constitutionnelle.
La Cour constitutionnelle, c'est-à-dire qu'il a empêché que Mme Merkel soit poursuivie devant les tribunaux dès le lendemain. Mais en tout cas, il lui a lié les mains pour l'avenir. C'est clair, parce que déjà que le Parlement allemand ne va que ratifier qu'en traînant les pieds le plan grec, n'attendez pas que demain il ratifie un plan espagnol, italien, voire français. Donc il n'y a plus de solution, c'est fini.
François-Mickey Marty, Via Voice.
Non, juste par rapport à ce que vient de dire Marc, je ne suis pas convaincu qu'il aurait été si facile de sortir de la zone euro, la Grèce, dès le départ, au fond des difficultés, parce que cette histoire est aussi une histoire politique. Et on pourrait imaginer que chaque pays, le Portugal, pourquoi pas, demain, soit sorte de la zone euro parce qu'on a une difficulté. Donc, oui, je pense que on a
c'est l'histoire des barrages, c'est-à-dire que tu as une petite brèche, tu peux la colmater. Mais si tu la laisses élargir, l'énergie développée par l'eau qui justement franchit le barrage est considérable et fait que c'est au-delà de toute possibilité humaine que de stopper la
Je crois qu'il est aujourd'hui possible de dire que le maximum aura été fait pour essayer de maintenir une unité. Voilà. Ensuite, si la Grèce sort de la zone euro, ce sera de façon...
Alors là, l'actualité de la semaine, les plans d'austérité, les plans anti-déficit hein, à la sauce italienne, sur fond de grève, de manif, avec un gouvernement qui veut frapper vite, qui veut frapper fort, on parle de 50 milliards d'euros, puis l'austérité à la sauce française, 11 milliards, alors ça discute hein, toute la semaine, ça a marchandé même entre le gouvernement, entre la majorité, les élus de la majorité à l'Assemblée nationale, au Sénat, alors sur l'hôtellerie de luxe, sur les parcs de loisirs, sur les plus-values immobilières. C'est pas un petit peu surréaliste tout ce débat auquel on a assisté, ces marchandages, François Langlais ?
Si, c'est vrai que c'est un peu saugrenu, si vous voulez, notamment la concomitance des deux événements. Quoi. L'Assemblée accorde sans coup férir des garanties de 15 milliards pour la Grèce, qui vont être perdues.
Alors,
on jette 15 milliards à la rivière. Et dans le même temps, s'empaille pour discuter de 90 millions d'euros la taxe sur le parc d'attraction. Bon, c'est un peu disproportionné. Cela étant, c'est quand même la première fois qu'on voit un gouvernement réviser à quelques mois d'une élection importante ses prévisions de croissance et reconnaître qu'il ne fera pas l'objectif qu'il s'était donné et en tirer les conséquences en termes de finances publiques. Sans doute eût-il été préférable de faire des économies sous la forme de réduction de dépenses. Mais au moins, on fait un peu le job. Et ce pilotage, je dirais en temps réel, fut-il imparfait, encore une fois, hein, je ne suis pas le dernier à le dire, me paraît quand même être un pas relativement positif dans la voie d'une rigueur raisonnable.
François-Mickey Marty, cette bataille de chiffonniers, ces marchands de tapis entre gouvernement, députés de la majorité, sur fond de lobby qui s'active, hein, on a vu notamment comment le patron de Coca-Cola à France avait menacé donc de renoncer à 17 millions d'investissements au Pen Mirabeau, donc dans les Bouches-du-Rhône, son usine Coca-Cola, pour protester contre la fameuse taxe soda. Alors il y a le patron Coca-Cola Europe qui a dit non, c'est un problème de communication, enfin bon, rétropédalage complet. François.
Oui, puis on a des lobbies qui vont très loin, enfin l'Union l'Union Nationale de la Propriété Immobilière estime que ils ne pourront plus soutenir, selon leur communiqué de presse, des hommes politiques qui les rackettent sur une mesure de réduction du déficit budgétaire. Je crois que ce qui fait défaut à la base, malgré tout, c'est un problème de cohérence. C'est-à-dire que le plan présenté par le gouvernement n'a pas de cohérence. Et là aussi, la communication faite par François Fillon et la communication officielle, le communiqué de presse diffusé par Matignon, établit des fiches thématiques sur chacun des enjeux. Donc on a une fiche sur les questions de taxation des reventes en matière de propriété, on a une fiche sur les parcs de loisirs, on a une fiche sur les boissons alcoolisées, on a une fiche là. Chacune commençant par un problème. Et donc on a le sentiment que la société française contient une série de problèmes quasiment illimités dont on ne voit pas, une série de fiches, et donc chacun s'indigne de façon bien légitime. Au nom de quoi ce problème est-il plus important que les autres ? Et cette communication, au fond, qui manque de colonne vertébrale, tout simplement, je crois, suscite aussi l'appétit des lobbyistes qui sont là pour ça.
Bah ouais, c'est leur boulot. Marc de Citivo ?
Oui, enfin, on est toujours puni par là où on a pêché. Pendant 30-40 ans, les gouvernements successifs ont gouverné par l'attribution de tel ou tel cadeau financier. Je rappelle quelle avait été la méthode qui avait été en place. On parlait de Carl Carter tout à l'heure. Rappelons comment les États-Unis ont été redressés. Ils ont été redressés par un homme qui s'appelle Reagan. Quelle a été la réforme fiscale de Reagan ? Parce qu'il est arrivé avec un système fiscal qui ressemblait un peu au nôtre. C'est-à-dire à la fois des taux très élevés en général et un nombre énorme de niches fiscales. Et bien, il a fait une mesure simple et de bon goût. Il les a toutes supprimées et il a fait baisser le taux général d'impôt. Ce qui, quand même, permettait de faciliter. Parce que moi, ce qui m'a toujours choqué dans toutes ces histoires de niches fiscales, c'est de l'interventionnisme public. C'est-à-dire que c'est l'État qui décide que si vous faites telle dépense plutôt que telle autre, si vous faites de l'immobilier plutôt que de la bourse, c'est bien. Puis ensuite, les mecs de la bourse disent « Oui, mais alors et nous ?» Alors on donne aussi un avantage et ainsi de suite. Supprimons toutes les niches fiscales et faisons baisser le taux marginal d'impôt. Voilà.
Alors, cette remarque ce matin, François, qu'on aborde les primaires du PS. Hein.
Simplement lire la communication du gouvernement sur la justification de la taxe sur les boissons sucrées.
Oui.
Entre 1997 et 2009... le poids moyen des Français a augmenté de 3,1 kg, alors que leur taille progressait de 0,5 cm. Ceci justifie la taxation des boissons gazeuses.
Pourquoi est-ce qu'on ne fait pas une taxe sur les seins?
Je suis convaincu.
Alors, bien évidemment, il y a des problèmes sérieux derrière.
C'est un communiqué Coluche, là. C'est pas du tout vrai. C'est pas le gouvernement, c'est Coluche qui a fait le communiqué.
Sur le site de Matignon. Non, il y a des questions d'obésité qui sont derrière. Mais enfin, c'est une plaisanterie.
Bon, très bien.
On comprend que les lobbyistes s'en donnent à cœur joie.
Ouais, là, on se régale ce matin. A tout de suite sur BFM Business.
BFM Business. Good morning weekend, Fabrice Lundy.
Good morning weekend, l'actualité politique de la semaine, toujours avec François Langlais, avec François, Mickey, Marty et Marc de Citivo, qui a perdu du poids, donc qui a renoncé donc à boire du coca.
Je parie les statistiques nationales.
Bon. Je ne bois plus que du vin, moi, monsieur.
Bravo. Bon, alors, on est à un mois de la primaire socialiste. J'ai l'impression que ça se gâte, ça se chamaille, on va le voir dans un instant, et chacun des candidats accélère. Martine Aubry, notamment, c'était... À Toulouse, oh, c'est pas innocent qu'elle aille à Toulouse, hein, ce qu'elle disait, voilà, j'ai voulu que tout commence ici, par Toulouse, que le fil soit renoué avec 80, 88, hein, François Mitterrand, elle y va, et elle lance son serment de Toulouse, Martine Aubry.
Pour combattre ce chômage de masse, je suis prête. Pour faire barrage à l'extrême droite et à la droite extrême, je suis prête. Je suis prête et ce sera un combat que nous gagnerons ensemble.
Je suis prêt, dit Martine Aubry. Martine Aubry, dont la seule expérience électorale, c'est une législative perdue en 2002 et passer de rien à une campagne présidentielle, c'est pas facile. Alors, c'est pas moi qui le dis. Hein. Attention, non, je reste neutre, objectif. Non, c'est Ségolène Royal qui l'a dit. C'était dans le Figaro, donc jeudi matin. Qu'est-ce qu'elle disait également sur son l'autre challenger, enfin l'autre candidat aux primaires, hein, François Hollande, qu'elle a bien connu à une époque. Son point faible, c'est l'inaction. Est-ce que les Français peuvent citer une seule chose qu'il aurait réalisée en 30 ans de vie politique? Une seule, s'interroge Ségolène Royal. Tiens, François Hollande, il n'a pas très bien pris. Hein.
Nul ne sait qui sera le vainqueur de la primaire. Et je ne voudrais jamais qu'on puisse utiliser un propos qui pourrait demain être utilisé par notre adversaire dans l'élection présidentielle pour amoindrir les chances de celui ou de celle qui sera... en face de lui.
Bon, il joue l'unité, François Hollande. Alors, Ségolène Royal, elle s'est expliquée, elle a dit non, moi, je n'ai pas du tout donné d'interview au Figaro. Hein. Tout ça a été sorti de son contexte, mes propos ont été déformés. Bon, c'est souvent ce qu'on dit après quand on dit des grosses bêtises. Marc de Citivo, vous vouliez dire une vacherie sur les primaires socialistes? Non, pas une vacherie pour une fois.
Non, là, ça me faisait rire quand j'entendais Ségolène Royal accuser François Hollande d'inaction. Il lui a quand même fait 5 enfants.
Non, il a parlé de vie politique. Ah, hein, d'inaction à vie politique.
Excusez.
Je crois que c'est 4 en plus, les enfants.
C'est 4. Ça me faisait rire quand même. Bon, François Mitterrand, j'aurais quelque chose d'autre à dire, mais sur Strauss-Kahn.
Bon, d'accord, après. Oui, c'est après. François Mickey Marty, c'est primaire, j'ai l'impression que ça se dégrade un petit peu l'ambiance là. Parce que la haute autorité des primaires, elle a tensé Ségolène Royal. Hein. Ça évolue comment? C'est dans un mois pile. Hein.
C'est dans un mois pile, le 9
dimanche
octobre.
9, ouais.
Mais cette histoire est très très compliquée. Lorsque vous avez une élection normale, un premier tour présidentiel, chaque candidat veut séduire son électorat. Un candidat UMP veut séduire un électorat UMP, un candidat socialiste veut séduire un électorat socialiste, etc. Là, le corps électoral est homogène, ou censé être homogène, il s'agit de séduire en priorité des socialistes. Et donc chaque candidat doit prétendre incarner la totalité du corps électoral de la primaire. Il n'y a pas de segmentation possible. Et donc comment on fait une campagne électorale? C'est quasiment impossible. Chacun doit être le représentant de la totalité des sympathisants socialistes. Mmh. C'est bien légitime, chacun est socialiste. Ils ont un programme commun qui est le projet du Parti Socialiste.
Donc ça joue sur quoi? Sur la personnalité?
Ça joue sur des dérapages. Ça joue ou sur une prétention à incarner la totalité, mais ça veut dire sur du silence essentiellement. Mmh. C'est-à-dire, François Hollande, depuis le début de cette élection primaire, de cette campagne en vue de la primaire, est passé maître dans l'art d'avancer sans trop se dévoiler, sans dégager d'arêtes saillantes qui puissent offrir des angles d'attaque à ses adversaires. Mais du coup, ça donne une campagne particulièrement atone. Que se passe-t-il pendant cette campagne des primaires? Très peu de choses. Ça ennuie une partie des sympathisants socialistes. Ça risque de décevoir aussi. Et c'est difficile, là-dessus, de mobiliser en vue des 9 et 16 octobre.
Et ça peut se faire au profit de qui, alors, finalement? Vraiment les silencieux, les tout-petits, les Montebourg, Valls
Et le véritable argument, peut-être, au fond, celui dont on considère qu'il est le mieux armé pour battre Nicolas Sarkozy, c'est-à-dire peut-être celui qui sera pas mal positionné dans les sondages.
Ouais. François Langlais.
Oh, juste un mot, non, je partage tout à fait ce que dit François à l'instant, c'est-à-dire que, de ce point de vue, l'heure de vérité de François Hollande n'est pas encore arrivée. Il est dans l'évitement parfait. D'ailleurs, là, les extraits que vous avez cités le montrent bien. Elle, elle, Ségolène Royal, elle est en queue de peloton, donc elle prend des risques, elle attaque. Lui, il joue la course en tête, donc au contraire, il sécurise. Mais c'est une stratégie qui ne pourra pas être conduite jusqu'au bout. Il va bien falloir un moment qu'il sorte du bois, qu'il annonce des choses, qu'il propose des choses.
On en est certain. Il peut être dans l'entre-deux et dans l'évitement jusqu'au bout. Hein.
Je crains bien que ça ne soit pas une stratégie gagnante jusqu'en mai 2012. Mais bon,
Celui qui aurait dû concourir, hein, Domi Strauss-Kahn, il est revenu donc dimanche dernier. Donc, vous avez assisté à toutes ces images, tout ce déferlement donc, médiatique. Hein, le retour de New York, l'arrivée à Paris, la grosse armada donc à l'arrivée, ces centaines de journalistes, la course-poursuite sur l'autoroute jusqu'à chez lui, place des Vosges, la caméra dans la cour là qui fait semblant de découvrir, mais en fait qu'apparemment donc avait été tout ça était très bien orchestré par ses communicants. J'ai l'impression que tout le monde comme ça est tombé dans le piège de la communication. François Langlais, comment vous jugez ce retour de DSK? Moi ça m'a choqué.
Moi aussi, ça m'a stupéfié, honnêtement.
Et de la part de mes collègues aussi. Hein, voilà, tout.
Alors,
tout,
le tout est de savoir, et personnellement, je suis incapable de le dire, quelle est la part d'orchestration de sa part à lui et de son clan.
Ils savent communiquer, hein, j'ai l'impression.
Mais en tout cas, c'est déplaisant, déplacé.
Oui, oui.
Et honnêtement, assez saugrenu.
Oui, c'était le grand cirque, voilà, ça donnait pas envie. Marc de Citivo.
Oui, moi, il y a quelque chose qui m'agace énormément. C'est à un moment, vous lancez une idée et puis tout le monde la répète sans y réfléchir. Et donc, j'entends depuis quelques mois, on ne peut pas se priver de la compétence de finances internationales de M. Strauss-Kahn. Nous avons suffisamment parlé ici du plan grec et de son échec. Il est temps de rappeler quand même que celui qui était à la manœuvre, c'était Strauss-Kahn. Bravo pour la compétence. On peut aussi demander à l'ancien président de Lehman Brothers des bons avis sur ce qu'il faut faire. Non mais je veux dire, c'est extraordinaire comment dans ce pays on peut répéter quelque chose et qui devient une vérité d'évidence alors qu'il n'y a aucun fond. Moi j'ai une proposition à faire personnellement parce qu'il y a quand même des domaines dans lesquels il y a des compétences. Vous savez que régulièrement il y a des députés qui proposent qu'on revienne sur la loi Marthe-Richard qui interdit l'ouverture des maisons closes en France. Eh bien, je crois que là, on pourrait demander un rapport à Strauss-Kahn. Là, il resterait quand même dans son niveau de compétence.
Qu'est-ce que vous en pensez, François-Mickey Marty?
Oui, c'est compliqué parce que chacun a sa propre lecture des choses. Et puis, l'opinion des sympathisants de gauche, des sympathisants socialistes, au fond, a changé. C'est-à-dire qu'après la période qu'on a qualifiée de sidération après le 15 mai, aujourd'hui, il y a un trouble à minima. Et j'ai bien peur que, pour ce qui concerne l'image de Dominique Strauss-Kahn, ce trouble-là dure assez longtemps.
Oui, oui. L'actualité également, c'était quasiment le même jour, le retour de DSK, et puis le lendemain, donc un homme dans l'actualité, enfin plutôt derrière, hein, puisqu'il ne sera pas à son procès, hein, c'est Jacques Chirac, l'ancien président de la République, qui présentait donc le week-end dernier une expertise médicale. Il souffre de graves troubles neurologiques, voilà, il a 79 ans. Selon son entourage, il n'a plus la mémoire, il ne peut plus participer aux audiences. Alors est-ce que c'est une esquive, une manœuvre? Son avocat, Georges Kejman.
De sa part, ça n'est sûrement pas un échappatoire, c'est simplement le renouvellement de sa conviction de toujours que tout le monde doit être traité à égalité devant les tribunaux. Mais est-ce que c'est traité à égalité devant les tribunaux que de comparaître malade et à ce point, ayant perdu sa mémoire? C'est une question que tous les Français qui sont compatissants et pas partisans se poseront.
Voilà, Maître Kejman, donc l'un des défenseurs de l'ancien chef de l'État. Il y aura un procès Chirac, mais sans Chirac, il sera représenté donc par ses avocats. Évidemment, toujours cette affaire, hein, évidemment, des détournements de fonds publics dans les années 80, 90, 90 exactement. François Langlais.
Bon, écoutez, j'ai souvent eu l'occasion m'exprimer sur ce sujet à ce micro. Ce procès est indigne. Je pense que, voilà, c'est au fond, ça ne rend pas véritablement la justice parce que ça renvoie à des pratiques qui sont certes condamnables, mais qui datent de 20 ou 25 ans, donc d'une époque.
Oui, des années 80, j'ai dit 90.
La morale publique a beaucoup changé, et d'ailleurs, heureusement, mais on a assez de sujets aujourd'hui pour s'encombrer de choses qui appartiennent au passé, de surcroît. Si le principal justiciable est au plan mental atteint d'une façon ou d'une autre. Je dois dire quand même que la leçon de cette affaire, c'est que la réforme de l'impunité liée à l'impunité du président de la République n'est pas la bonne. Et qu'on a là commis une grave erreur parce qu'on a déresponsabilisé les politiques en exercice. Il n'y a aucune raison de le faire. Et que si au moins cette aventure pitoyable pouvait servir à ce que les esprits les plus éminents en matière de droit
de loi, ouais.
Se réunissent de façon transpartisane pour élaborer un cadre durable, crédible, qui contribue à restaurer la confiance dans le politique, ça serait bien. Je ne suis pas sûr que ça soit le cas.
Marc de Citivo.
Oui, moi je dirais que franchement, dans les critiques que l'on peut faire à Jacques Chirac, c'est vrai que ceci est quand même faible. Nous avons ici même, du temps où il était président, fait des critiques infiniment plus sérieuses sur son immobilisme, sur le fait qu'il a vraiment participé à laisser croire aux Français un tas de baratins sur la mondialisation, sur le modèle social français et tout. C'est là où il est vraiment coupable. Le reste, d'avoir fait payer par la mairie de Paris quelques agents du RPR de l'époque, somme toute, c'est vrai que c'était une habitude coupable mais banale.
Mais c'est pas beau quand même. François-Mickey Marty.
Hein. Oui, je suis d'accord avec François et Marc. D'autant plus qu'il y avait à l'époque un problème de financement de la vie politique. Je ne suis pas persuadé que les lois sur le financement de la vie politique actuelle aient résolu tout ça. C'est-à-dire qu'on a aujourd'hui encore des partis politiques qui manquent d'argent. Et qui certes s'inscrivent dans des pratiques qui sont beaucoup plus légales que ce qui se pratiquait au début des années 90 ou au cours des années 80. Mais néanmoins, ce problème n'est pas résolu. Donc Jacques Chirac, comme d'autres, a fait ce qu'il pouvait dans un contexte qui était parti. Et aujourd'hui, je rejoins ce que disait François, je trouve qu'il y a une part d'ingratitude, voire d'irrespect à s'acharner sur ce cas particulier.
Voilà, merci à tous les trois. François Langlais, nouveau directeur de la rédaction de BFM Business, qui nous accompagne tous les week-ends. Marc de Citivo aussi était avec nous ce matin, fondateur des Cahiers Verts de l'économie, et puis François-Mickey Marty, président fondateur de l'Institut de sondage et d'opinion Via Voice. Revenez vite.